Culture FRL, une émission réalisée par Yasmine Datno et Maria Morgenstern.
Culture FRL. Culture FRL.
Bonjour et bienvenue sur French Radio London. Je suis Maya Morgenstern et vous écoutez Culture FRL. Bienvenue en ce 31 octobre 2012 où on fête évidemment Halloween. L'émission est donc placée sous le signe du farfelu et du décalé. On démarre avec le dossier de la semaine dédié au Museum of Everything, un musée itinérant d'outsider art, c'est-à-dire d'œuvres faites par des gens qui n'ont pas de formation artistique et ne se revendiquent pas comme artistes. Le projet est très sérieux, il est monté par le déjanté James Brett, que l'on a reçu lors de son passage éclair à Londres. Cette nouvelle édition propose 500 œuvres et s'installe dans un immeuble en plein cœur de Paris. La critique de la semaine est ensuite allée au cinéma, voir un film tout aussi étrange que captivant, Holy Motors, du controversé Léos Carax. Et enfin, nous passerons à l'agenda des sorties pour connaître les bons plans de la semaine. C'est parti, c'est tout de suite sur Culture FRL.
Culture FRL. Culture FRL.
Après Londres, Rome ou Moscou, James Brett installe maintenant son Museum of Everything à Paris. Il a ouvert lors de la FIA qui restera quelques mois à l'affiche. James nous a expliqué comment était né le projet et ce que l'on peut attendre de la programmation parisienne. James Brett, vous êtes maintenant avec nous dans ce petit café londonien. Merci de prendre 5 minutes de votre temps pour nous recevoir. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du Museum of Everything qui est devenu maintenant une institution dans plusieurs villes du monde. C'est un musée itinérant. Racontez-nous comment est venu le concept et c'est quoi exactement ?
Je ne sais pas, en effet, mais c'est un grand hasard, accident énorme qui est devenu un musée, mais ça vient que je suis intéressé aux artistes qui font l'art sans penser de l'art, qui font pour eux-mêmes les créations privées. Et ça m'a intéressé parce que ces artistes, ils sont sans prétention et très intéressants comme l'esthétique. Et j'ai vu il y a beaucoup d'années que l'esthétique est quelque chose qui est loué par les artistes contemporains. J'ai dit, intéressant. Et le plus que je les regardais, d'abord aux États-Unis, mais après, dans tout le monde, il existe dans tout le monde, dans chaque coin, il y a quelqu'un. Dans chaque bâtiment du monde, il y a plusieurs artistes comme ça. Et on doit les découvrir. Donc, nous avons ouvert le musée parce qu'en Angleterre, on ne parle pas d'art brut ou d'outsider art. Tous les grands musées ne pensent pas à ça. Même que je dis que ces mots comme art brut sont dégueulasses, ils sont la ségrégation. Tous les mots comme ça, il dit, nous sommes les normaux, les hommes et femmes civilisés, et les autres, ils sont outsiders, ils sont différents, ils ne peuvent pas être comme moi, nous sommes supérieurs, et moi, je pense que c'est absolument impossible. Nous sommes un monde, quelques univers, mais un monde, un peuple du monde, et tout le monde a la possibilité et de plus le droit d'être artiste.
Mais justement, ces gens-là que vous trouvez, ce sont des outsiders, vous l'avez dit, ils n'ont pas de formation spécifique à être des artistes. Est-ce qu'eux se considèrent comme des artistes ou est-ce que c'est votre opinion à vous ?
En effet, souvent, on trouve quelque chose après quelqu'un est mort. On découvre dans la chambre quelque chose d'incroyable. Par exemple, il y a un grand artiste américain qui s'appelle Henry Darger. Et il est devenu de plus en plus important. Et à ce moment-là, le musée d'art moderne a gagné beaucoup d'œuvres de lui. Et c'est très important parce que...
Et pardon, le Folk Art Museum aussi de New York.
Oui, oui, oui. Mais c'est, en effet, c'est plus important dans le musée d'art moderne parce qu'à Paris, ça c'est un musée formel. C'est quelque chose qui est pour tous les gens. C'est pas folk art, c'est pas outsider art. Mais en effet, il a fait ça pour lui-même, c'est son histoire privée. Et maintenant, on peut voir ça et il y a beaucoup de vérité là-dedans, les images qui sont très esthétiques. Mais il pense qu'il était artiste, je pense. Mais en même temps, il ne le pense pas. Parce qu'il fait ça absolument seul, dans la chambre, pour lui, pas pour l'autre. Et ça, c'est souvent l'histoire. Mais il y a les autres, par exemple, quelqu'un qui a une disabilité développementale, qui ne peut pas parler, mais il peut faire l'art. Mais il ne comprend pas ce qu'est l'art. Il seulement comprend qu'il fait quelque chose. Et ça, c'est c'est le plus incroyable parce que quelqu'un qui fait quelque chose, qui ne pense pas au mot d'art, au concept d'art.
Oui, il n'y a pas de réflexion sur le fait qu'il est un artiste.
Exact, et ça c'est beaucoup plus important. On doit faire parce qu'on est humain. La créativité existe dans la nature, mais l'art n'existe pas. C'est une création de nous, c'est un artifice.
Alors, on va parler des différents Museum of Everything, puisque votre premier projet, on le rappelle, était à Londres, pendant Frise, à côté de Regent's Park. Ça a été un énorme, énorme succès. Vous êtes revenu ensuite, Selfridges, la consécration, on peut dire. Vous êtes passé par d'autres villes du monde. Comme c'est itinérant, puisque vous n'avez pas d'espace, est-ce que c'est toujours la même idée, le même concept, ou est-ce que d'une ville à l'autre, vous changez ce que vous présentez?
Non, donc, en effet, on a commencé dans un espace à Londres. On a fait deux grands... expo là-dedans, mais après ça j'ai dit c'est cher d'avoir un espace, et aussi je n'aime pas que tout le monde dit ah oui, un nouveau musée, très bien, on peut venir pour le café chaque jour, et j'ai pensé c'est trop confortable, je ne veux pas que c'est une institution, c'est plus important de faire les surprises, et aussi j'ai vu dans le monde il y a une possibilité de communiquer ces idées. Dans l'été nous avons fait un grand voyage de Yekaterinburg à Kazan, à Nizhny Novgorod, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, dans un grand camion de Everything, qui était un musée, en effet. On a fait, voilà, nous sommes ici, fait la télévision, la radio, les journaux, et on cherche pour les artistes. Et on a dit, viens à nous, et si on trouve quelque chose incroyable, on fait dans l'expo, à ce moment-là, dans le grand camion rouge avec le mot Everything sur l'extérieur.
Est-ce que vous avez trouvé dans ce voyage en Russie des similarités, puisque ce sont des artistes locaux, c'est international, finalement c'est universel, ou est-ce qu'on sent le background de ces gens-là, de là où ils viennent?
Les deux, parce que vraiment les humains sont universels, les problèmes, les idées sont universelles, mais en même temps il y a la culture qui existe, et absolument on voit qu'ils sont les Russes.
Ce style russe, puisque c'était la dernière exposition que vous avez fait, vous définiriez ça comment? Qu'est-ce qui pouvait vous permettre de dire « je sens quelque chose de russe »
Et il y a quelque chose. D'abord, il y a les voix silencieuses, parce que les Russes n'ont pas la possibilité de parler. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est qu'ils sont très nets. Ils veulent toujours me donner la nourriture. Inviter pour dîner, chez la maison, avec la grande famille, un grand honneur. C'est incroyable. Ils sont un peuple très hospitalier. C'est fantastique, et je deviens très gras après la Russie. Et la troisième chose, c'est une histoire de peinture qui est très formaliste, qui vient du système soviétique. Donc on voit beaucoup de gens qui font les peintures des arbres, beaucoup de peintures des idées post-communistes. Mais aussi il y a beaucoup de fantasy. Les jeunes garçons, il y a beaucoup de fantasy comme Geiger, avec les créatures incroyable d'un espace bizarre. Pour les jeunes filles, souvent beaucoup de papillons. Oh là là. Même c'est intéressant de voir pourquoi quelqu'un fait quelque chose. Ça, c'est plus intéressant. Et par exemple, j'ai parlé à Nizhny Novgorod. Il y a un homme qui est entré. Il est venu avec une douzaine de dessins des arbres. On dit, qu'est-ce que c'est ici, les arbres? Il est dans le parc, près de moi. Combien vous avez fait? Il est beaucoup, je fais chaque jour. Pourquoi? Je veux faire un record, le parc, chaque jour, comment on change d'hiver à hiver. Et on a dit, combien des années on a fait ça? 15 années, chaque jour, 4000 dessins. Donc on est allé avec lui, on a fait un rendez-vous dans le parc, et sur le chemin, il a fait une année de dessins. Incroyable. Et en effet, il fait un catalogue des événements à même année, et on a compris à ce moment-là que ce n'est pas beaucoup de choses, c'est une œuvre très privée qui fait documentation de 15 années dans la Soviet Union, dans quelqu'un, il est vieux, il a 75. c'est aussi c'est une métaphore pour le post-perestroïka. Je suis sûr que c'est ça, c'est incroyable et c'est très difficile de prendre de lui parce qu'il dit, je fais une encyclopédie. Et je dis, pourquoi personne ne voit ça? Si vous travaillez avec nous, nous pouvons montrer au monde et c'est très difficile pour quelqu'un comme lui parce que c'est privé. Il fait ça parce qu'il veut parler de quelque chose qui n'a pas les mots. Et ça, c'est incroyable parce qu'on a découvert beaucoup de gens dans la Russie qui a quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que les mots. Et ça, c'est si intéressant parce qu'il n'a pas une opportunité avec les musées formalistes parce que les Soviet System ou c'est l'art contemporain. Et l'art contemporain à la Russie, c'est quelque chose un peu qui a les yeux au...
C'est les yeux vers l'ouest, c'est les yeux vers nous finalement. Absolument. C'est Abramovitch, c'est le garage, c'est pas du tout, il n'y a pas de place pour ces gens-là.
Ils sont mes partenaires à ce moment-là. Donc, en même temps que Garage aime l'art contemporain, il a travaillé avec moi parce que je l'ai persuadé que c'est important. Et je pense qu'il pense aussi que c'est important. Et qu'il y a quelque chose de contemporain qui existe en la Russie qui vraiment décrit le pays et le système et toutes les choses qui existent à ce moment-là.
On va parler maintenant du projet parisien aussi qui nous amène aujourd'hui. Alors on va donner les dates d'abord à nos auditeurs. C'est du 15 octobre au 15 décembre à Paris, au 14 boulevard Raspail dans le 7e. Là, ça va être complètement différent puisqu'on part dans un milieu qui a l'habitude de l'art contemporain. C'est pendant la FIAC, une partie, en tout cas le début. Pas du tout les mêmes types de personnes, on pense, qui vont aller voir cette exposition. Racontez-nous comment s'est passée cette aventure et comment est-ce que vous avez choisi les œuvres? Parce que trouver peut-être des artistes russes dans la campagne, c'est une chose. Trouver des artistes à Paris, c'est pas du tout le même système. Comment vous avez fait?
Donc, Paris, c'est complètement différent. En effet, j'ai rencontré un Jean plus haut que moi, plus maigre que moi aussi. Et il s'appelle Marc-Olivier Waller. Et il était le chef de Palais de Tokyo pour beaucoup d'années. Et il m'a dit, j'aime beaucoup the Museum of Everything. Moi, j'ai dit, j'aime beaucoup le Palais de Tokyo. Donc, on dit, on fait un mariage. Donc, il a dit, je fais quelque chose qui s'appelle Chalet Society. Et il m'a introduit au bâtiment énorme dans Saint-Germain. Et c'est un séminaire catholique, 1000 mètres, incroyable, incroyable. Je dis, c'est absolument nécessaire qu'on fait quelque chose. Et il dit, est-ce que vous voulez une chambre pour faire une expo? Je dis, oh non, une chambre, je veux le bâtiment. Et donc, on a décidé de faire une grande expo des artistes du monde. Je pense qu'il y a 500 œuvres là-dedans. Et avec ces artistes un peu inconnus, comme le Henry Dog, il est plus fameux, mais les autres qui sont vraiment, vraiment inconnus, on fait les textes qui viennent des artistes contemporains comme Anne Massager et aussi Maurizio Cattelan, et Peter Blake et Grayson Perry d'Angleterre.
Des artistes, on va dire, qui se considèrent comme artistes et qui sont très établis.
Oui, et ils sont établis, mais ils aiment beaucoup ces artistes inconnus. Et ils écrivent de leurs inspirations, pourquoi c'est important pour eux. C'est comme une histoire alternative d'art des siècles 19e, 20e, parce que vraiment, ça c'est ce que je crois. Il y a une histoire alternative et ça décrit quelque chose de complètement différent. Et c'est spécialement important en France et à Paris où il y a l'histoire d'art brut, les surréalistes, de faire un nouveau contexte pour ça. Parce que c'est pas art brut, c'est pas quelque chose de différent, c'est la même chose. Et donc, l'exposition, c'est d'introduire les artistes, de faire un grand voyage dans cette histoire particulière. Et aussi, on a un restaurant avec les gens qui font le restaurant derrière.
Mourad Mazouz.
Oui, Mourad, mon ami. Donc, on fait un petit bistrot, un bistrot de everything. Et en même temps, on fait un petit pop-up shop dans le musée, mais aussi à Merci, dans la rive gauche, à Boulevard Beaumarchais. Beaucoup de choses, tous à Paris, pour dire ceci est quelque chose de différent. Et je veux parler beaucoup avec les Français. Il y a aussi les artistes français qui sont vraiment inconnus à Paris. Il y a un qui s'appelle ACM, qui fait la construction incroyable, comme le temple mayan. On a une chambre remplie avec sa construction. Il habite près de Lille. Il est presque ermite. Personne ne le sait. ACM s'appelle Alfred et Corinne Marie. C'est le nom parce que c'est lui l'artiste avec sa femme, parce qu'il a dit, oui, sans ma femme, je ne fais rien. Donc, beaucoup sont des Amériques, de la Russie, de
partout. Mais comment vous les avez choisis, alors, à part les artistes établis, les autres, ils viennent d'où?
Nous faisons la curation de nos expos dans un moyen compliqué et très amateur. Parce que moi, je viens du monde du film. Et c'est si nécessaire pas de dire ce c'est le script et on doit suivre exactement. On doit dire qu'est-ce que c'est mieux dans ce moment-là. Donc, on a entré dans le bâtiment, on a dit on va faire l'expo avec ces artistes. Mais qu'est-ce que le bâtiment dit à nous? Qui sont le mieux pour entrer dans cette chambre? Je veux beaucoup qu'on fasse une narration, un voyage entre les œuvres. Ce n'est pas seulement voir les images. On doit avoir un voyage émotionnel. Debout, au fin, on doit faire un changement.
Comme un peu un voyage initiatique, finalement, à l'intérieur du musée?
Oui. C'est vraiment parce que quelque chose a changé avec moi quand j'ai découvert cet art, quand j'ai travaillé avec les gens avec les disabilités. J'ai compris mieux pourquoi le monde fait les choses, pourquoi nous sommes créatifs. Et ça, c'est le changement qu'on essaie de communiquer au grand public.
Alors ça, c'est le concept du Museum of Everything. Il y a quelque chose qu'on vous a parfois applaudi, qu'on a parfois reproché, c'est qu'il y a un café, vous en avez parlé. Il y a aussi eu des produits dérivés, c'est-à-dire oui. Que là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus commercial. Alors, deux questions. Un, est-ce que les œuvres sont à vendre?
Oh là là.
Et comment ça marche? Et est-ce que vous avez l'impression de dénaturer un peu votre concept en devenant commercial?
Nous ne sommes pas une galerie commerciale. Nous sommes une charity et, en Angleterre et nous faisons seulement les expos sans vendre. Mais en même temps, on pense que c'est très cher de faire un musée. Comment on doit gagner l'argent? Parce qu'on ne prend pas l'argent du gouvernement. Donc on a des partenaires comme Garage, comme Marc Olivier, qui donnent l'argent pour faire l'exposition. En même temps, on essaie de prendre les donations sur la porte, si c'est possible. En Angleterre, c'est libre d'entrer dans le musée, mais on dit toujours quelques livres, merci bien.
Et à Paris, il y aura une urne à l'entrée?
À Paris, on essaie aussi la même chose. On dit peut-être si vous pouvez, 5 euros, merci, merci. Si vous ne pouvez pas, ok, c'est la vie. Et donc, en même temps, on dit c'est possible de faire les produits, de faire les livres, les prints, mais aussi les vêtements. Et nous avons une idée qu'on en fait. Selfridges, on fait les jupes avec Clemence Ribeiro, qui sont les très connus designers de Londres. Et on fait les incroyables jupes et habits pour les jeunes femmes avec les images des artistes qu'on a travaillé et donne argent aux artistes. Et c'est vraiment une bonne idée. Et la meilleure nouvelle, c'est qu'on Beyond à porter notre pantalon et Cindy Sherman, elle porte notre jupe. Donc pour moi, c'est très intéressant. Vraiment, c'est très difficile de faire l'argent si on fait la manufacture de seulement 100 jupes. Mais c'est bien parce que ça parle des idées. Beyoncé porte les pantalons qui a une image d'un genre qui a une disabilité, ça c'est très important, très important. Même qu'elle ne comprend pas exactement où a fait ça, c'est très important parce que...
Ça permet de véhiculer vos idées.
Oui, oui, et c'est une infiltration dans la culture. Mais aussi pour nous, l'autre chose, c'est notre website. Donc on a un website pour le shop qui est shopevery.com. Et un website pour le musée qui est museevery.com. Mais pour les Français, j'ai traduit dans mon français terrible museevery.fr. Et donc, on a ça en français pour communiquer. Ça, c'est la plus importante chose. On doit communiquer.
Alors, la dernière question, puisque ça fait maintenant quelques années que ça existe, Museum of Everything, est-ce que vous savez ce que sont devenus les artistes, on va dire par exemple de la première année qui était à côté de Regent's Park? Est-ce que ce sont des gens qui sont retournés en gros d'où ils venaient? Ou est-ce que ce sont des gens qui se sont découverts artistes à plein temps comme vocation et qui continuent de créer et qui maintenant vont peut-être rentrer dans le système? C'est un bien grand mot, mais en tout cas s'approcher du système puisqu'ils l'ont goûté avec vous.
C'est une question très compliquée, mais merci bien pour la question compliquée. Donc, s'il y a quelqu'un qui est artiste que nous avons découvert ou peut-être un peu découvert, on peut faire dans l'expo et peut-être qu'il y a un curateur ou un musée qui a vu et il dit « c'est intéressant » et cet artiste devient plus et plus connu. Un grand exemple est Judith Scott. Mais elle était connue avant que nous ayons fait l'expo, mais après notre expo à Londres, elle est morte maintenant, mais elle a Down syndrome. et elle a fait une œuvre incroyable sans penser de l'art. Ils sont les grands sculpteurs, un peu comme un messager. Et Lynn Cook, qui était curator de Reina Sofía à Madrid, elle a vu ça. Maintenant, Judith Scott est dans l'expo de Rosemary Truckle qui va à New Museum in New York, Serpentine à Londres. Ça, c'est un succès incroyable parce que ça, c'est quelqu'un qui vraiment n'a jamais été dans les musées propres.
Mais elle est morte. Parmi les vivants, est-ce qu'il y a des gens qui ont changé la manière dont ils voient leur création? Est-ce qu'il y a des gens qui, avant vous, n'étaient pas des artistes, ne se considéraient pas comme des artistes et qui, aujourd'hui, se considèrent comme des artistes pour avoir été vus dans le Museum of Everything? Est-ce qu'ils ont changé le regard sur eux?
Oui. Oui, absolument. Il y a le plus connu à ce moment-là, je pense, c'est George Widener. George était autodidacte qui a Asperger's. Et quand nous avons fait notre première expo, il est connu un peu avec le collectionneur, mais pas beaucoup. Il habitait dans les rues et il a commencé à faire les dessins des numéros parce qu'il est savant. Et il fait les numéros sur le papier, les serviettes. Et nous avons fait l'expo. Il était dans l'expo. Maintenant, de plus en plus de galeries montrent ces choses. À Art Basel, le dernier Art Basel, j'ai vu une grande œuvre de lui qui est vendue de 40 000 euros. Ça, c'est, il est dans le marché.
Le prix d'un artiste qui a déjà milieu de carrière.
Absolument. Et je parle à lui, je dis, et qui êtes-vous, Georges? Qui êtes-vous? Elle dit, il y a un temps, j'étais un outsider. Mais maintenant, je suis artiste contemporain.
Donc finalement, vous avez réussi le pari à infiltrer le monde et à expliquer ce qu'étaient les outsiders. James Brett, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes le directeur du Museum of Everything, qui a lieu à Paris du 15 octobre au 15 décembre 2012, au 14 boulevard Raspail, dans le 7e. On rappelle le site web, c'est museevery.fr, dans un français impeccable. James, merci.
Merci.
Culture FRL. Culture FRL.
On passe maintenant à un petit peu de musique. On commence avec Mrs. Mister et leur titre Bones. C'est extrait du EP Candy Bar Creep Show, produit par Creep Show Records en 2012. C'est une chanson épique, à voix dramatique, qui n'est pas sans rappeler Florence and the Machine ou encore Lana Del Rey. Mrs. Mister est un groupe qui monte à New York. On les découvre donc ensemble avec leur titre Bones.
We'll be right back. candy bar creep show. My highs hit a new low. Marinate in misery like a girl of only 17. Man-made madness and the romance of sadness. Beautiful dance that happened by chance. Happened by chance. Happened by chance.
Écoutez Mrs. Mister et leur titre Bones.
Culture FRL. Culture FRL. Culture FRL. Culture FRL.
Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre de Paris, de Strasbourg ou d'ailleurs, vous écoutez Culture FRL. Dans la première partie de l'émission, nous avons reçu James Brett, le directeur du Museum of Everything. Place maintenant à une nouvelle pause musicale avec Bob Dylan et son titre Long and Wasted Years. Cet extrait de l'album Tempest, qui est produit par Columbia Records en 2012. Le célèbre parolier et troubadour américain Bob Dylan revient avec son 35e album et les rumeurs annoncent que cela pourrait bien être le dernier. Alors au-delà de son âge, la raison évoquée est le titre de l'album, Tempest, qui fait référence à la dernière pièce de Shakespeare, The Tempest. Affaire à suivre. En attendant, on écoute Bob Dylan qui nous offre une belle collection de chansons. On écoute Long and Wasted Years.
Such a long, long time since we loved each other, but our hearts were true. One time, for one brief day, I was the man for you. Last night I heard you talking in your sleep, saying things you shouldn't say. Oh, baby, you just might have to go to jail someday. Is there a place we can go? Is there anybody we can see? Maybe it's the same for you as it is for me. I ain't seen my family in 20 years. It ain't easy to understand. They may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? Enemy crashed into the dust, stopped dead in his tracks, and he lost his lust. He was run down hard and he broke apart. He died in shame. He had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. If I hurt your feelings, I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide, down the eastern line. You don't have to go, I just came to you. because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Vous venez d'écouter Bob Dylan, Long and Wasted Years.
Culture FRL. Culture FRL.
Pour la critique de la semaine, nous sommes allés nous enfermer dans les salles noires du cinéma pour aller voir le dernier Léos Carax, Holy Motors. Cela faisait plus d'une décennie que le réalisateur Léos Carax n'avait pas tourné de long métrage. On se souvient du très controversé Paula X en 99 et quelques années avant ça, l'irregardable et relativement irritant et incompréhensible Les Amants du Pont-Neuf. Alors forcément, si nous sommes allés voir Holy Motors au cinéma, c'était un peu à reculons. Tout d'abord, visuellement, on est content que le film sorte pour Halloween, on a trouvé plein d'idées. Les effets de Caroline Champetier subliment le maquillage et les prothèses des personnages fantastiques que l'on croise tout au long du film. L'image est mi-pop, mi-gore, alliée à des dialogues détachés, donne un peu une impression de Matthew Barney à la sauce française. Mais tous ces artifices ne seraient rien sans la performance de Denis Lavant, un acteur fétiche de Léos Carax. Lavant se glisse dans la peau d'un personnage à l'autre sans sourciller. Il passe par exemple de la vieille mendiante à un tueur à gages asiatique ou un père de famille désabusé et tout devient possible, crédible même. Enfin, presque, on est parfois éjecté du film et ramené à la réalité de l'artifice du cinéma à cause de scènes trop longues ou trop prétentieuses. Par exemple, la référence un peu lourde à King Kong avec le monsieur merde enlevant Eva Mendes, ou alors la scène érotique d'une contorsionniste et de son alter ego virtuel. Ou enfin le passage façon ange déchu à la Wim Wenders avec une Kylie Minogue qui aurait peut-être mieux fait de s'en tenir à la bande-son. Dans ce dernier volet, on en profite en revanche pour avoir une vue magnifique et panoramique depuis la Samaritaine abandonnée, avec un clin d'œil, peut-être même un pied de nez, et une vue magnifique sur le dessus du Pont Neuf. Au final, Holy Motors est un film émouvant, poétique, impressionnant, mais à qui on mettrait bien parfois quelques claques. Bref, du Léos Carax dans toute sa splendeur.
Culture FRL. Culture FRL.
On continue en musique avec maintenant le groupe Haïm et leur titre Hold Me. Cet extrait de l'album Just Tell Me That You Want Me, A Tribute to Fleetwood Mac, qui est produit par Starcon en 2012. La chanson est issue d'un album plein de reprises, en hommage, vous l'aurez compris, à Fleetwood Mac, le groupe légendaire américain, avec à sa tête Stevie Nicks. Leur influence a été énorme ces dernières années sur les jeunes de la scène pop, notamment en Australie et aux États-Unis. Donc qui mieux pour reprendre une de leurs chansons que ce groupe Haïm, un trio féminin de Los Angeles, au son naturellement proche de Fleetwood Mac. Elle passe maintenant officiellement à l'hommage avec la très bonne reprise Hold Me que l'on écoute de suite. Vous venez d'écouter Raïm et le titre Hold Me.
Culture FRL. Culture FRL.
Place maintenant à l'agenda des sorties. On commence avec le Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Annette Messager y propose une exposition intitulée Continent noir. Ce sont des œuvres récentes d'Annette Messager, cette artiste majeure de la scène contemporaine internationale. Elle avait reçu le Lion d'or à la Biennale de Venise en 2005, quand elle représentait la France. Elle a choisi de présenter plusieurs installations récentes qui passent du ludique à l'inquiétant au fil d'un parcours qu'elle a imaginé. C'est une installation monumentale, faite d'éléments suspendus et mouvants visibles depuis la nef du musée. L'inquiétude est le thème principal des œuvres qu'elle présente. Annette Messager, c'est au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, du 13 octobre 2012 au 3 février 2013. Nous partons maintenant aux Galeries Lafayette, non pas pour faire un peu de shopping, mais pour fêter les 100 ans de la construction de la coupole. Les Galeries Lafayette consacrent donc une exposition inédite dédiée aux monuments célèbres du boulevard Haussmann à Paris. Plusieurs événements célébreront ce centenaire avec, entre autres, une exposition conçue comme un voyage inédit dans le temps, dont le commissariat est assuré par Rem Koolhaas, ainsi qu'une nouvelle mise en lumière du bâtiment par Yann Kersalé. Les 100 ans sous la coupole, c'est du 17 octobre 2012 au 26 janvier 2013 aux Galeries Lafayette.
Cette émission vous a été présentée par Maya Morgenstern.
C'est la fin de cette émission. Merci à notre invité, James Brett, le directeur du Museum of Everything, et à Alban de Puri pour la programmation musicale. Merci aussi au docteur Nick Wells qui m'a suivi tout au long de la grossesse et a permis à ma petite Sacha de voir le jour. Si vous avez raté le début de l'émission, Culture FRL est rediffusée le dimanche à 18h. Pour plus d'infos ou donner votre avis, retrouvez-nous sur le groupe Facebook Culture FRL. Merci à tous, bonne semaine sur French Radio London et rendez-vous mercredi prochain 18h pour plus d'actualités culturelles.
Culture FRL. Culture FRL.